Louis-Philippe Labrèche, le 29 juin prochain, déjà, ça va être le Festival de jazz de Montréal. Un de mes moments préférés de l'année, parce qu'on vient de vivre les Franco, puis là, le centre-ville de Montréal s'anime encore plus que les Franco. Il y a des touristes qui sont là, ça parle anglais, français, plein de langues. Tout le monde converge au centre-ville, il y a plein de shows, c'est vraiment intéressant. Puis là, on épluche la programmation du Festival de jazz, puis on se dit... Ah merde, comment je vais faire pour tout voir ça? Qu'est-ce que je vais choisir? Il y a des shows extérieurs gratuits, il y a des shows en salle, il y a des découvertes, il y a des noms établis. Et là, je me suis dit, on pourrait inviter Morin Auxemery pour nous aider à se démêler dans tout ça. Salut Morin!
Bonjour les amis!
Comment ça va?
Mais je suis content d'être là, ça va très bien.
Yes.
Ça va,
bonjour Marc-André.
Salut Louis-Philippe.
Tu m'as dit allô, mais je t'ai pas dit allô.
Ben oui, effectivement. Ben c'est ça, écoute, avant toute chose, avant qu'on commence à se lancer dans des suggestions puis que tu nous donnes des petits pointers vers des artistes que tu souhaites qu'on découvre ou qu'on devrait peut-être écouter des petits extraits, des trucs comme ça, ça reste que c'est une année un peu spéciale parce que c'est un peu... On va expliquer
on
un petit peu ça.
C'est feu.
Ta première c'est année ça. Où tu es au règne, là, vraiment, du Festival de jazz, c'est devenu toi... En fait, le poster child de la programmation du Festival de jazz. En temps normal, on aurait notre bon vieux Laurent Saunier. Et là, cette année, tu prends les rênes pour vrai. Comment tu te sens? Est-ce que tu aimes ça, faire ça? Tu me dis que c'est un peu comme avoir un party à la maison avec de la bouffe. Puis là, tu présentes le menu. Tu aimes ça?
Exactement. J'adore ça. C'était une grosse année, effectivement, transitoire. Donc, prendre la tête de l'équipe. Ouais. Aller chercher des nouveaux éléments aussi pour la compléter, évidemment, puisque je suis amené à faire moins de booking. Parce que j'ai un petit peu moins de temps, il y a beaucoup de meetings, des affaires de budget.
T'as des responsabilités maintenant, tu peux plus juste t'amuser avec le booking.
Exactement, faire un petit peu de ressources humaines, d'organisation, de tout ça. Là. Donc ma mission a effectivement un peu changé. A fait évoluer mon quotidien. Mais je me suis régalé. J'ai une équipe fantastique là, avec Isabelle Ouimet, que vous connaissez bien, Modibo Keïta, qui est le nouveau venu au Festival de Jazz, qui est un tromboniste. Donc on fait rentrer des musiciens un peu. J'aime ça, là, qui est un peu le.
Ça fait des pauses dîner plus animées.
Tu parles pauses dîner, c'est genre t'as envoyé l'offre, ouais, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux prendre cette date parce que lui il veut aller là, et puis c'est ça les pauses dîner en fait.
Pas le temps de jouer du trombone ma mère.
Non, mais c'est exactement. Donc il y a Modibo, il y a Audrey Johnson qui est avec nous, il y a Frédéric Giroux qui est notre coordo tout terrain, il y a Valérie Morel qui travaille un petit peu sur le jazz mais qui est essentiellement sur les franco. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Moi-même? Ben voilà, c'est ça, c'est notre équipe. Après, il y a d'autres personnes qui interviennent sur les Franco, effectivement. Et on fabrique toute l'année cette espèce de grosse bouffe multiservice. Mais c'est vraiment comme ça que je le vois, en fait. On avait préparé un peu. Ok, donc chérie, on invite qui ce week-end? Ok, donc tu sais, on regarde, ouais, ça pourrait être bien d'inviter tel ami, puis tel ami. Attends, j'ai mon cousin qui est là en ville en ce moment, très bien, ouais, ça va faire un bon mix.
Puis là, tout au long de l'année aussi, tu vas tester les ingrédients un peu partout dans le monde.
Et voilà, on fait le test, exactement, on va tester les ingrédients, là. C'est nature.
Une petite dégustation.
Je vous assure, c'est nature. Et puis là, on est un peu rendu au stade où on essaye de mettre l'eau à la bouche à nos futurs convives. Le public de nos festivals, les franco et le jazz, en leur disant un peu qu'est-ce qu'il va y avoir dans le menu. Là. Ouais. Puis moi, je trouve qu'il y a assez caviar cette année.
Ouais.
Oh. C'est caviar.
Mais c'est une caviar, partie thème, donc ça, venir parler du menu. T'aimes ça, présenter les choses?
Bah, c'est rigolo, ouais. On parle de musique, d'artistes, de vibrations surtout, en fait. Ouais. La vôtre, la nôtre, celle des musiciens, celle du public. Puis,
public, ouais.
Puis tu vois, tout à l'heure, tu t'évoquais justement ce 29 juin. Là. C'est quelque chose que je dis souvent, mais c'est comme un espèce de sentiment que j'ai systématiquement qui est d'une puissance hallucinante. C'est comme une espèce de lame de fond. Là. C'est, on a vécu les Franco. Les Franco, c'est un festival absolument merveilleux que je chéris profondément. Mmh. Puis j'intervenais moins jusque-là sur ce festival parce que j'étais vachement concentré sur le jazz. Mmh. Mais donc là, cette année, j'étais amené à mettre un petit peu plus mon nez dedans. Là. Mmh. Et, Et du coup, tu sais, c'est un magnifique festival, mais comme tu disais, il y a moins cette espèce de portion touristique, puis l'affluence est un petit peu différente. Et quand tu sors des Franco et que tu arrives au jazz, là, il y a comme une espèce de step qui se passe. Tu as le site à 17h qui est blindé avec du monde de partout. Et moi, le sentiment que ça me donne là, quand j'entends la première note de musique, là, que je marche dans la rue, là, c'est, j'ai l'impression d'être lifté à genre 3 cm au-dessus du sol et d'être sur un coussin. Là. Ouais. Puis là, toutes les questions de fatigue, parce qu'on s'est tapé les franco pendant 10 jours, puis tu sais, on commence déjà à être un peu fatigué. Il ben, y a tout le stress, la fatigue, tout ça, ça disparaît. Puis c'est genre... Et ça part.
Morin, comment... Parce que c'est ça, j'en parlais tantôt avec Marc-André, puis moi, la première fois que je t'ai rencontré, tu travaillais déjà sur le jazz, puis t'étais déjà le bras droit de
tout à
de
fait.
Laurent. T'es parti d'où? T'arrives d'où? T'as fait quoi? Quelles études on fait pour arriver là? De qu'est-ce que c'est?
J'ai l'impression d'avoir un peu de chance dans ma vie, en fait. c'est sûr, j'ai des bad luck hein, tout le temps. Là. ça arrive. Mais y a comme des choses qui sont... je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu écrit, cette histoire. Après, regarde, moi, je suis né dans une ville qui s'appelle Auch, à 40 km de Marciac. Marciac est un petit village de quelques milliers d'habitants qui, l'été, se transforme en une plaque tournante jazz. Ah. Et il y a un festival là-bas qui existe depuis 50 et quelques années. Je pense qu'ils ont fêté le 50e il y a une couple d'années. Donc pour moi, c'est très rapidement, c'est devenu un peu l'espèce de pas de centre de ma vie, mais un petit peu, puisque pendant les vacances, donc jusqu'à 6 ans, j'habite à côté de ce petit village. Je vais à l'école de Marciac. Après, on déménage à Toulouse, mais tous les étés, on revient dans cette maison que mon papa charpentier a fabriquée, a réparée, puis il a fait une super charpente et tout. Là. Et tous les étés, ça, c'est le rendez-vous de la famille et des amis. Quand je dis de la famille et des amis, c'est genre il y a des années, on était 80 à la maison. Là. C'est un gigantesque bordel.
Tu es habitué aux foules.
Ouais. Il y a combien de toilettes dans la maison? Une. Combien de douches? Une quand elle marche.
Une demi, ouais.
On vous conseille le champ de maïs pour les besoins juste derrière, au bout du chemin à droite. Et donc, c'est ça. Donc j'ai grandi, mon enfance, adolescence, à aller dans ce festival tous les étés qui durait 3 semaines. Là, ils ont un peu réduit le format. Où j'ai vu des Nina Simone, des Michel Petrucciani, des Marsalis, des Ray Charles, des Keith Jarrett, puis tout ça a un peu rythmé mon été. Et bon, je trouve ça un petit peu redondant, ça fait plusieurs fois que je la raconte cette histoire, mais mon premier crush musical avec le jazz, j'ai une dizaine d'années, puis à l'époque le chapiteau c'est comme un truc de cirque en fait. Puis mon père me dit, on est à côté, on va rentrer là-dedans. Là, il lève la bâche, il me fout un coup de pied au cul. Vas-y, avance, passe là-dessous, je te rejoins de l'autre côté. Là. Puis là, on se retrouve au milieu du chapiteau. Il me dit, attends, au milieu. Là. On se retrouve au milieu du chapiteau. Puis il y a Marsalis qui joue cette année-là. C'est un Trumpet Summit. Et il y a Roy Hargrove qui est là-dessus, qui est tout jeune, tout petit. Puis je prends une espèce de claque. Puis je regarde mon père, je lui dis, pas si mal ta musique en fait.
T'avais quel âge environ?
J'ai un peu du mal à dire quel âge j'avais, mais c'est sûr que j'avais en dessous de 12 ans, en fait.
Ok, t'étais vraiment enfant, là, même pas
ado encore. J'étais enfant, ouais, tout à fait. Okay. J'étais pas si mal. Puis j'entendais beaucoup de jazz à la maison, évidemment, parce que mon père aimait ça, au-delà des Stones, puis des Dire Straits, puis ce genre de... J'étais un peu élevé à ça, là, un peu de Pink Floyd, un peu de... Ouais, vous savez, les anciens,
ouais,
là, hein, évidemment.
Ouais. Le genre de choses qui jouaient
à la maison. On a tous été
biberonnés
à ça, là, right? Bon. Et là, c'est un peu comme... une espèce de pré-piqûre, parce que je passe évidemment à travers mes années Bob Marley.
Faut passer par là. Ouais,
hein, j'ai des années reggae.
Je reste bloqué sur Marley jusqu'à très tard, en fait.
Ah ouais?
Ouais, j'ai pris du retard sur beaucoup de gens à ce moment-là. Ouais.
pour plusieurs
raisons. Par contre, j'allais chercher les bons lives et tout. Tu sais, j'étais vraiment genre, j'étais monomaniaque, Marley. J'allais un peu voir les habits de Marley avec les Black Uhuru, les Peter Tosh évidemment, et tous les Benny Wailer et compagnie, mais j'étais vraiment obsédé par Marley. Pour moi, c'était la
la crème.
C'était ma religion, quoi. Et je reviens plus tard au jazz, quelques années après, en découvrant Brad Meldo.
Ah, ouais.
Joshua Redman. Puis ça, c'est mon vieux pote d'enfance qui, lui, était batteur de jazz, qui me fait découvrir le nouveau jazz, en fait. Et puis là, c'est un nouveau monde qui s'ouvre avec les Eric Truffaz et Julien Louraud. Donc, c'est une scène très française aussi, là. Okay. Puis voilà. Donc là, il y a mon goût pour le jazz qui se développe. Puis à un moment donné, je pars de Toulouse pour aller étudier à Rennes en école de commerce. Pour revenir à ta question.
Non, mais c'est les Saint-Jacques qui t'avait amené à Rennes.
Ah, j'avoue, je me souviens d'un Noël à Coup de Saint-Jacques, là, revenu. Ma mère m'avait dit « Ramène des coquilles Saint-Jacques », puis j'avais acheté des coquilles Saint-Jacques. Je lui ai dit « Dire-moi de l'argent, j'ai pas d'argent ». Elle m'avait donné de l'argent, je vais ramasser une espèce de montagne de Saint-Jacques. Je pense qu'on en avait mangé pendant 3 jours. Là. Il avait fallu les nettoyer. Oh, boy. Mais oui, les Saint-Jacques, évidemment. Mais donc je débarque à Rennes, puis... En école de commerce, faut-il faire une école de commerce pour devenir programmateur? Pas du tout.
Non.
Si tu veux devenir programmateur, maintenant je vais revenir après. Non, c'est maintenant. Si tu veux devenir programmateur de festival de jazz ou d'un festival de façon générale, je pense que c'est bien de faire du journalisme. C'est bien d'aller bosser pour un label.
Ouais.
C'est bien d'aller bosser pour un booker. C'est bien d'aller bosser en management, c'est bien d'aller travailler dans les éditions, c'est bien de mettre les mains dedans, en fait. Mmh. Et quand tu es un gamin, et puis nous, on en voit autour là, des gens qui sont dans nos environs, là, qui à 15 ans, 16 ans organisent... Moi, je suis jamais passé par là, en fait, mais des gars qui organisent des parties country dans les sous-sols de maisons, puis qui finissent par inviter des artistes et machin, puis qui font charger l'entrée. C'est ça, en fait.
C'est ce qu'on appelle apprendre le booking sur le tas, vraiment. C'est faire à toute petite échelle, puis ensuite grossir. Mais je pensais que c'était un peu comme ça que tu avais fait tes dents, un peu, parce que moi, le premier souvenir que j'ai de toi, puis je sais pas si tu t'en rappelles, mais c'était il y a une dizaine d'années, c'était à l'été 2013, où tu m'avais dit... Toi, t'as un blog qui s'appelle Sortu, il va falloir qu'on se parle. Je suis en train d'organiser un spectacle. J'ai besoin d'aide en matière de promo. Et t'avais booké Philippe Catherine au Théâtre Fairmont.
Ah, oh, quand même! OK, ouais.
À l'été 2013, c'est complètement si indépendant.
Mm-hmm.
T'étais pas passé, tu travaillais avec personne d'autre.
Catherine, indépendant.
Lors de son projet, là, où il faisait 52 reprises dans l'espace. Il avait fait une reprise par semaine, c'était un album triple. Toi, t'avais décidé, je vais le faire venir au Théâtre Fairmont.
Ouais.
Beaucoup trop petit pour lui, mais quand même. Puis,
ouais,
ça,
mais en même
indépendant.
Temps, en même temps, c'était tellement compliqué, cette histoire. Oh my God. Mais ça, c'était ma dernière année en tant que booker, parce que j'étais booker à ce moment-là.
Uh-huh.
Donc, tu sais, pour faire le lien entre ce qu'on disait,
ouais.
Je suis dans mon école de commerce. Puis quand je suis dans mon école de commerce, à un moment donné, je vais faire un stage dans une compagnie. Puis dans cette compagnie, tous les midis, je vais m'acheter des disques de jazz. Enfin, peut-être pas tous les midis, je vais passer moyen là, mais je vais acheter pas mal de disques. Puis je les ramène et je fais écouter là. Je suis un peu le DJ du bureau. Puis je vois que les gens réagissent. Puis là, je commence à tester un peu leur goût, machin. Puis là, puis ça me pop. Là, je me dis, je veux devenir directeur artistique d'un festival. Festival de jazz. Là, j'ai 20 ans, 21 ans. Voilà. Donc, c'est un truc que je traîne depuis quelques temps.
Mais tu savais que ce que tu voulais faire, c'était de devenir directeur artistique d'un festival vraiment de jazz.
Ouais,
c'était de
jazz.
C'était vraiment le jazz que tu
c'était
voulais.
Ça que je voulais faire. C'était mon dream job. Je l'avais verbalisé. Puis c'était, je veux faire ça plus tard. C'est ça mon objectif.
Wow.
Et donc, j'arrive au Québec. Je commence à travailler pour un petit label de jazz. FND pour les nommer. On organise des séries de concerts, ça s'appelait Jazz en Rafale. On fait venir du monde, des Français un peu, des Israéliens, des locaux. On fait des rencontres, machin. Puis je finis par monter ma structure et c'est là que il y a un moment donné, j'avais fait une tournée avec Médéric Collignon, cornettiste français. Médéric Collignon, allez écoutez ça, c'est exceptionnel. Médéric Collignon en live, c'est incroyable. C'est un mec qui est tout dans le scat. C'est un espèce de petit, il y a un petit côté Louis de Funès là, puis il joue là. Beaucoup d'improvisation, c'est vraiment un projet pété. Donc j'avais réussi à organiser une tournée festival qui allait de Vancouver jusqu'à Halifax, en passant par Rochester. On était rentré aux États-Unis sans les visas. C'est un bordel. Ça reste entre nous. Et le contrebassiste qui jouait là-dessus qui s'appelait Frédéric Chifolo, jouait dans Les Peintres de Francis et ses peintres,
ouais.
qui a invité Philippe Catherine à faire les 52 reprises dans l'espace.
Ah, c'était ça. Oh.
Et donc là, il me dit, hey, vas-y, joue là-dessus, ça te dirait pas de monter quelques dates l'année prochaine? Bah, vas-y, let's go, on le fait, ouais. C'est Catherine. Yes! Donc je monte des dates.
Il n'y avait pas juste Montréal?
Non, il n'y avait pas juste Montréal. Okay. J'avais réussi à...
Québec, hein?
Il y avait un festival d'été où on a fait... C'était comment ça s'appelait à l'époque? Où est-ce qu'ils avaient joué? Ben, c'était à l'Impérial, en fait.
L'Impérial,
mais ça s'appelait pas l'Impérial à l'époque. Ça s'appelait comment avant?
Je me souviens toujours appelé l'Impérial.
C'était l'Impérial.
Sinon, ils jouaient au Cercle, peut-être?
Non, non, c'était l'Impérial.
L'Impérial.
On avait fait l'Impérial. On avait... Francis et ses peintres sans Catherine avaient une date au Festival de Jazz.
Ah.
Catherine était venue voir le spectacle. Il y avait trop de boulot. Il était en train de faire des dessins. Il fallait qu'il finisse une parution de dessins. Donc, il fallait qu'il travaille. Après qu'on ait fait la session dans l'hôtel, je faisais passer les gars les uns après les autres avec leur passeport pour pouvoir faire la demande en ligne de visa américain. Ça aussi, ça avait été un espèce de bordel monstrueux, là. Puis là, c'était quoi? Oh my god! C'est autour de Catherine, Philippe Catherine. Puis là, il est installé. Puis je dis, ok, j'ai besoin de ton numéro d'assurance sociale maintenant. Puis là, il me dit, attends une seconde. Il prend son téléphone, va sur YouTube. Et il a son numéro d'assurance sociale, c'est, il en a fait une chanson. Et elle dit, tiens, c'est ça mon numéro d'assurance sociale. Eh ben wow. Voilà, c'est facile.
Ça, c'est probablement la seule personne au monde qui peut trouver son numéro d'assurance sociale sur YouTube.
Tantôt, on peut aller se partir des cartes de crédit au nom de Philippe Catherine.
Au nom de Philippe Catherine, c'est assez facile de voler son identité.
Let's go. Donc, j'avais organisé ça, puis on avait fini par faire le concert au cabaret du Mile End, parce que ça s'appelait le cabaret,
ouais, ouais.
Et c'était Alex qui travaillait en bas, qui était
Alex,
le gérant là-bas, qui m'avait dit, ah, vas-y, viens faire ça chez moi, je vais te faire un deal. Moi, j'étais un peu en galère de savoir où est-ce que j'allais faire ça, parce que j'avais pas trop le droit d'utiliser le nom de Catherine. J'avais essayé juste pour rire, puis j'étais vraiment en train de me fourvoyer à l'envoyer juste pour rire, parce que tu mets pas Philippe Catherine à juste pour rire, parce que tu casses le truc, quoi. Donc j'avais produit cette date, qui avait mis du temps avant de vendre, mais qui avait explosé.
Ben oui, mais en même temps, c'était promu de façon totalement indépendante, puis sauf erreur, pendant les festivals, mais hors festival.
Ah ouais, donc, puis on avait fini, on était plein, puis on avait passé une soirée rocambolesque.
OK.
J'avais proposé à Philippe Catherine d'aller faire du Bixi pendant la nuit, tu sais, en référence à sa... À sa chanson
sur le Vélib.
Sur le Vélib, oui. Mais ceci ne dit pas si nous avions pris de la drogue ou pas ce soir.
Était-il dans l'espace avec Francis? On ne sait pas.
Il était plutôt spatial, ouais.
On va quitter l'espace, on va revenir au Festival de Jazz.
Ouais. Yes.
OK, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer? À chaque année, parce que...
Ben, j'aime ça, tantôt, tu parlais qu'une de tes racines, c'était Brad Meldo. Brad Meldo est le premier soir, sauf erreur?
Non, il est le soir moins un, parce qu'il joue 28.
Ah, ça, c'est, en fait, c'est en pré-ouverture.
Ouais. Okay. Ça, c'est parce que parfois on a des lubies, puis quand c'est pas possible le 29 parce qu'il doit partir en Europe, ben
tu le fais pareil.
Regarde Brad, on va t'offrir une belle place le 28, puis on va appeler ça une pré-ouverture du Festival de Jazz. Donc on aura un petit apéro Brad Meldo.
Ça se prend bien.
T'en veux des rimes? Let's go. Donc Brad, évidemment, je pense que cette année on a beaucoup de découvertes à faire. Et c'était un peu ça notre leitmotiv cette année là, c'est qui n'est pas venu, à qui on donne de la place, on veut du de la nouveauté, on veut aller chercher des on a mis des choses en place à travers les années avec Laurent, puis surtout l'année passée avant qu'il s'en aille là, on s'est arrangé pour se donner un petit peu plus de moyens pour toute la portion gratuite. Mm-hmm. On se rend compte que c'est pas toujours évident, puis ça je pense que c'est un truc un peu global dans l'industrie en ce moment là. Les gens vont se faire un plaisir de sortir 500 balles pour aller voir Madonna, mais payer 35 dollars pour un jazzman dont ils n'ont jamais entendu parler, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Et je critique pas, hein, c'est comme ça que c'est foutu, puis on joue avec, ça fait partie des paramètres, puis c'est tout. Et donc, puis ça, c'est une analyse qu'on fait depuis des années, puis on a décidé qu'on allait s'organiser pour offrir un jazz plus costaud, avec des mecs qui viennent de New York, qui viennent du UK, de Chicago, de Los Angeles, de France, puis des locaux aussi, évidemment, parce qu'on veut pas les tasser, dans un contexte où c'est plus facile pour le public de les découvrir. Et c'est là qu'on est arrivé avec l'idée du studio TD gratuit.
Ouais.
C'est là qu'on a décidé de repimper un petit peu notre scène jazz extérieure et puis d'en disséminer un petit peu partout. Puis cette année, on a continué ça, puis on a mis un petit peu plus de jazz. Cette année, on devrait avoir genre entre 3 et 4 jazzman ou très très proches du jazz qui vont jouer sur la grande scène.
Ouais.
Puis ça, tu sais, l'année passée, on avait Kamasi Washington. Puis l'année d'avant, il y avait le Covid.
Il y avait la Covid. Ouais.
Mais enfin, en même temps, on avait fait une édition un petit peu cut down. Mais l'année d'avant, en 2019, on avait Eric Truffaz. Puis tu sais, il y en a toujours eu. Puis ça a été important pour nous. Mais là, c'est vraiment, OK, on se fait critiquer depuis des années qu'on n'est pas assez jazz. Puis ça, c'est quelque chose qui revient systématiquement. Mais hey, essaye d'aller voir tous les shows de jazz qui dans une seule et même journée au Festival de Jazz.
Tu réussiras pas.
Je te garantis que tu vas pas y arriver.
Non, puis je pas, tu sais, à un moment donné, pas assez de jazz, tu sais, je veux dire, probablement que Bad Bad Not Good pour bien des gens qui disent pas assez de jazz, trouvent ça pas assez de jazz aussi. Puis moi, je suis comme, c'est quand même du jazz, tu sais, à un moment donné.
Bad, c'est du jazz, Bad Bad.
C'est pas parce que ça rentre pas, mettons, dans une genre de pureté ancienne du jazz que c'est.
Mais justement,
jazz.
Mais c'est ça qui, pour
le
moi,
jazz,
est.
Ça bouge.
Voilà, puis c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Puis je pense que c'est un espèce de une espèce de constat qu'on peut faire sur beaucoup de choses. Les frontières sont moins
poreux.
Claires, sont poreuses, sont plus flexibles, sont plus puis ça amène justement plus de, enfin il y a toujours eu du mélange dans le jazz avec le fusion, l'électro jazz, puis tu sais, on en a vu tout le temps là, mais en ce moment il y a ça toujours qui perdure, puis on sent que le jazz commence à se balader dans d'autres courants artistiques aussi, puis ça revient, il y a comme un espèce de yo-yo intéressant.
Ouais.
Puis donc il y a toute cette nouvelle génération qui est en train de s'établir et qui est en train de devenir un peu des stars de la musique, tout simplement. Quand on voit ce que réalise Demi et JD Beck cette année, là, qui reviennent au festival.
Pour une troisième fois en un an à peu près, parce qu'ils ont fait une date, c'est
tout à fait
hors
ouais.
festival aussi.
Ouais, mais ça fait partie des autres lubies. Là. Demi et JD Beck, on les avait confirmés en 2020.
Ouais.
On a dû les annuler. Puis il n'y avait pas de Thundercat de Anderson Paak dans le décor, il n'y avait pas de Blue Note dans le décor, il n'y avait personne qui était là, mais on faisait. Domi et JD Beck, qu'on avait mis au studio TD.
Je connais pas Domi et JD Beck. Pourquoi
c'est
connais.
Deux jeunes, c'est new-yorkais ça. Hein,
non, c'est Domi, c'est une française qui vient de Strasbourg, je crois, qui a déménagé aux États-Unis. Je pense qu'elle était d'abord elle est partie à Boston pour étudier à Berkeley, puis après elle est partie à Los Angeles où elle a rencontré JD Beck, qui est un batteur. Les deux, ils ont genre 21 et 24 ans, quelque chose comme
ça. Ah pour vrai, hein.
Les ticus. Jeune,
ouais. Ah ouais.
Et c'est vraiment des espèces de geeks finis de musique et de son. Tu sais, Domi, elle joue tout, la bass, les keys, le machin.
Okay.
C'est une monstre. Puis JD, il est incroyable aussi.
Okay.
Et donc, à l'époque, on était partis pour les faire dans un studio TD qui allait fatalement être vide, en fait. parce qu'on faisait ça trop tôt.
Ici, ouais.
On faisait ça trop tôt. Et depuis, donc, il y a Anderson Paak qui est tombé dessus. Thundercat a fait des vidéos avec eux. Et je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo avec Thundercat qui joue avec Ariana Grande. Ça vous dit quelque chose?
Ah oui, ça me dit de quoi, par exemple?
Si tu as vu cette vidéo, ben, le batteur, c'est JD Beck. Puis le clavier, c'est Domi. Voilà. Et puis, ben, ça a commencé à exploser. Puis nous, on s'était positionnés pour les faire revenir. Changement d'agent, bordel à gérer, machin. Puis non, ça ne marchera pas. Puis on n'a rien lâché jusqu'à ce qu'on confirme Domi et JD Beck l'année passée avec des conditions qui étaient quand même, somme toute, assez risquées à l'époque.
C'était en salle, hein?
C'était au Club Soda.
Au Club Soda, ouais.
On a fait 700 billets au Club Soda.
Ah, quand même.
Avant que l'album sorte.
Quand même, hein?
Mais c'est parce qu'en même temps, on dit, c'est eux, c'est les next big thing in jazz, c'est eux, allez-y,
bon,
machin.
Depuis la dernière année, c'est encore plus le cas. Peut-être pour te mettre un petit peu en bouche, on peut écouter un extrait, tiens, d'une chanson qui s'appelle Smile.
Vas-y, non.
Écoute ça. cool. Il y a des petits bouts un peu plus expérimentaux, même.
Mais l'album, sur l'album, il y a Herbie qui joue, il y a Thundercat, il y a Anderson .Paak.
Ah ouais?
Il y a qui d'autre?
Quelques invités.
Snoop Dogg. Non, c'est fat. Les invités, c'est okay. Fat.
Mais c'est ça, ils sont en première partie d'Herbie and Cut.
Ils jouent en première partie d'Herbie, ouais.
Ouais. Donc, ça, c'est cool, c'est aussi comme mélange, parce que Herbie, qui est évidemment un vétéran de chez vétéran, là, c'est quand même un vieux de la vieille. Ça fait des années, ça fait quoi, 50 ans à peu près qu'il fait de la musique. Et là, de proposer plus, ouais, à son public. Une première partie qui est une jeune relève de 22, 23, 24 ans. C'est
ouais, ça, cool. c'est la formule consacrée. Est-ce que ça se dit, ça? Oui, peut-être.
Oh, ouais. Sans formule consacrée.
Post-prod, s'il vous plaît. mais ouais, le t'sais, quand t'arrives à monter un package comme ça, puis t'sais, c'est juste parfait. C'est tout rond, c'est beau, ça marche. La dernière fois qu'Herbie était venu, on avait mis Thundercat en première partie. On sait ce qui est devenu Thundercat depuis. Là. Il remplit des MTLUS, il joue dans les plus gros festivals du monde. C'est dans les plus gros festivals au monde. Ça va bien. Puis là, sur l'idée avec Herbie, quand on confirme Herbie, on a dit Herbie, on veut garder un peu de budget pour mettre genre probablement Domi et J.D. Beck. C'est pas sûr qu'ils soient disponibles parce qu'ils devaient partir en Europe pour leur tournée. Parce qu'on voulait les faire revenir, évidemment, faire la suite, puisqu'il y avait de la demande. Et puis, yeah, ok, super idée, vas-y, go, machin. Donc, on confirme Herbie. Puis là, on s'attaque au dossier Domi et J.D. Beck. Puis, non, ils sont en Europe, machin, ça ne marchera pas. Vous êtes sûr, vous ne voulez pas checker. Puis, après plusieurs discussions, finalement, ok, d'accord, envoyez une offre, on va regarder ça. Là. Alors, je suis absolument désolé, puis je trouve ça terrifiant. Là, pour ma conscience écologique, là, c'est un peu compliqué, mais pour ce show-là, pour venir jouer au Festival de Jazz de Montréal en première partie de Herbie, ils vont faire un hiatus de leur tournée européenne pour faire ça. Et puis, moi, ça me fait chaud au cœur, en fait. Ça me fait chaud au cœur parce que je vois que, tu sais, il y a toujours cette espèce de respect entre les anciens, enfin, pour les anciens. C'est sûr que Herbie, il joue sur l'album, mais tu sais, pour eux, c'est... Puis ils sont en train de découvrir cet univers-là aussi, là, des grandes personnes, là, puis des gros business, puis des machins. Puis ils viennent là, ça leur fait plaisir. Et puis surtout, ils viennent jouer au Festival de Jazz. Puis j'aime ça qu'ils se donnent la peine de venir jouer chez nous. Puis ça, c'est important.
Ils font vraiment le détour pour venir. Parce qu'il y a quand même des artistes qui font la tournée des festivals de jazz. On s'entend, on voit le Festival de Jazz d'Ottawa, des trucs comme ça. On voit qu'il y en a qui font la tournée, mais là, c'est vraiment...
Ici, c'est plus gros.
C'est plus gros, mais ça reste que dans le booking, il y a quand même des artistes qui sont dans une tournée de festival.
Généralement, puis regarde, ça fait un peu pétage de bretelles, j'en suis désolé, pardonnez-moi. Non. Mais si tu regardes les festivals de jazz à travers le Canada, ils ont tous un bout de notre programmation. Les modèles sont différents, là. Je pense que la notoriété et puis les moyens qui ont été mis à travers les années sur le Festival de Jazz nous permettent aujourd'hui de présenter genre des centaines et des centaines de concerts, chose qui n'est pas nécessairement le cas à Ottawa, à Toronto, mais exact. On discute beaucoup avec ces gens-là pour fabriquer ces programmations justement. Puis, Thundercat, pour le confirmer, on avait besoin qu'il y ait du monde autour de nous là. C'est obligatoire, donc mais là c'est le Bluesfest qui l'a récupéré, puis il me semble qu'il y a une coupe de...
C'est ça, Thundercat, c'est un petit peu un cas différent parce qu'il est très jazz, mais il est facilement bookable dans des festivals pas jazz du tout.
Tout à fait.
Donc,
c'est un peu plus passe-partout.
Tout comme Bad Bad Not Good aussi. Ouais, il y a une crédibilité auprès du milieu hip-hop et tout ça qui fait en sorte que tu peux emmener ça au Festival d'été de Québec, tout comme au Festival de Jazz.
Exactement. Mais puis pour nous, c'est important de les avoir parce que généralement, c'est des gens qui vont jouer à Bonnaroo, à Coachella, à Primavera. Quand ils voient le posture de Oshiaga, ils se disent ce serait bien de jouer là-dessus. Là. Mais ils viennent de chez nous en fait. Ils viennent de chez nous.
Moi je les ai vus juste une fois. C'était à South by Southwest avec Ghostface Killah.
Ah, yes.
On parle de Bad Bad Not Good.
Ouais. Ouais. Bad. Mais on a fait ce concert-là.
Ouais,
on a fait il y a
quelques années. Exact.
Tout à fait.
Metropolis, c'est
vrai. Avec Ghostface qui avait raté son avion. Ouais. Ouais. Ouais.
Je me rappelle d'avoir vu à peu près 45 minutes de Bad Bad Not Good. Et éventuellement, Ghostface, que là, avec encore son passeport dans sa poche, qui est venu faire.
Non, tu l'as dit, je vais quand même m'arrêter prendre une douche à l'hôtel.
Ok.
Il voulait sentir bon.
On sent que
c'est juste parce que ça fait depuis une heure que tu devrais être sur scène, puis là tu sors de l'aéroport, puis tu nous dis que tu vas aller prendre une douche. Ok.
Bon, ben écoute, on le salue. Pendant ce temps-là, Bad Bad Not Good assuré, sans aucun problème.
Yeah.
Ouais. Ok, sinon, dans la prog, qu'est-ce qu'on devrait pas manquer? Qu'est-ce que tu dis ça, tu connais pas ça, que tu devrais le savoir?
Ok, moi, le conseil que j'aurais tendance à vous donner pour les gens qui aiment ou qui n'aiment pas le jazz,
ouais.
C'est pas grave.
Non, faut c'est pas essayer. Grave, on s'en fout.
Parce qu'il y a un jazz pour tout le monde.
Ouais.
Ouais.
Chaque individu sur cette planète peut découvrir son jazz.
Son jazz.
Mais ouais. C'est un style qui est tellement polymorphe que tout le monde est capable d'aller y trouver son compte là. Dans de la balade, dans du hard bop, dans du bebop, ouais. Dans du fusion, dans du avant-garde. Il y a moyen de trouver son jazz. Donc allez vous promener entre le studio TD et la scène Pub Molson qui est au coin de Sainte-Catherine et comment ça s'appelle
Sainte-Catherine et Clark.
Clark, l'Esplanade. Merci. L'Esplanade tranquille. Exactement.
Ouais.
Là, c'est deux grosses progs. C'est gratuit, c'est facile. Là-dedans, vous pourrez découvrir Andy Owens. Gros coup de cœur cette année. Okay. Énorme coup de cœur cette année. On l'a
Andy
vu à New York.
Andy Owens,
E-N-D-E-A, okay. Plus loin, O-W-E-N-S, contrebassiste qu'on a vu à New York avec l'équipe en janvier, qui est absolument fabuleuse. Elle va être genre, ils vont être 7 ou 8 sur scène, 2-3 chanteurs, section de horns. C'est de la joie qui sort du stage, mais vraiment de la grosse joie. Là. On était dans ce petit club qui s'appelle le Zinc. À New York, ouais. Là, on était installés avec Isabelle et Modibo, puis on était fous, là, on regardait ça, là, puis ça s'enchaînait, les chanteurs, chanteuses, puis les solos, les machins, c'était irréel.
Ok.
Et tu vois, même quand t'aimes pas le jazz, puis que tu vois autant de bonheur, puis tu sais, c'est au-delà de la musique, c'est même plus de la musique qui sortait de là, c'était vraiment de la pure joie, en fait.
Donc, même quand t'aimes musical.
Exactement. Même quand t'aimes pas le jazz et que tu prends ça, que tu vois ça, c'est sûr que tu peux pas rester insensible. Donc, elle, définitivement à découvrir.
Est-ce qu'on s'écoute un petit extrait, tiens? Ils ont fait un Tiny Desk Concert.
Yes.
C'est ça? Pendant qu'on écoutait l'extrait, t'as des confirmations qui rentrent dans ton téléphone. Est-ce que tu peux nous donner des scoops?
Comment piéger moi?
Ça sort quand, ça?
Ça sort la semaine prochaine.
Ça sort la semaine prochaine.
Ouais, ah, est-ce qu'on peut le dire?
On est un peu serré, là.
Ah, mais regarde, sais-tu qu'est-ce qu'on peut faire? Dis-nous-le, puis à post-production, on va faire des bips par-dessus.
On va censurer nos propres scoops.
J'adore.
Mais il reste encore des...
On essaye, allez, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, puis là, vous pourrez me sortir tous les vers du nez que vous voudrez, mais je ne sortirai rien. On essaye de travailler sur un gros show. C'est quel jour? C'est le 4 juillet.
OK.
Sur le gros stage. Tu sais, on est vraiment genre à un mois et demi d'événement.
OK.
On est en train d'essayer de finaliser un truc qui va être un peu surprenant, un peu excitant pour le jazz, en fait.
Bah, donne-nous juste des initiales, on fera avec ça.
Des initiales? Bah, tu vas rester là-dessus, tu vas fouiller dans ton cerveau.
On surveillera ça.
Mais je pense qu'il y a effectivement des petites surprises qui s'en viennent encore. Puis il y a une couple de belles surprises, en fait, pour les nostalgiques. Puis c'est essentiellement de l'extérieur qu'on va annoncer. En intérieur, on va annoncer les noms de la série Invitation de Nate Smith. Puis c'est vraiment des top noms qui vont jouer. Donc ça va être au Jésus.
Okay.
La première soirée, ça va être Michael League et Lionel Weke qui vont jouer avec Nate Smith. Donc c'est un batteur là. Le deuxième soir, ça a déjà été annoncé, c'est avec un claviériste qui s'appelle Kiefer, artiste super intéressant à découvrir, et Cartoons, qui est un producteur qui commence à faire parler de lui, ouais, genre YouTube et compagnie.
J'ai
entendu, ouais, il joue de la basse, il joue un peu tout, là. Il a un petit côté un peu funky jazz, vachement intéressant, un autre geek de musique fini.
Cool.
Et le troisième soir, ça va être avec Corey Wong et Victor Wooten.
Wow. Ça, attends, Victor Wooten était déjà en ville ou non? Il vient pour ça?
Non, il vient juste pour ça. Au Jésus.
Wow. Il vient pour être invité
Overkill.
Au Jésus quand même.
Overkill.
Overkill.
Wow. Mais Corey Wong, on l'a fait. Si vous ne connaissez pas Corey Wong, ça fait partie des artistes à découvrir impérativement. Il est dans le giron des Wolfpack.
Ok, ouais.
Donc il a joué au Club Soda l'année passée. On a vendu son Club Soda en 3 semaines, quelque chose comme ça. Et donc, ils vont faire un show inédit, tous les trois ensemble. Oh, Jésus, 400 places. Ridicule.
À l'extérieur, c'est-tu parce que t'as réussi à avoir Salt?
Oh my God.
T'aimerais ça, hein? Moi aussi, j'aimerais ça.
Ah, on essaye depuis quelques années, hein?
Écoute, même quand ils sortent des albums, ils sont pas faciles à attraper parce qu'ils sortent ça 5 albums sur un WeTransfer qui est disponible pendant 4 jours.
Je suis pas encore passé à travers les albums.
Moi non plus, j'ai même pas pu toutes les écouter. J'en ai écouté un ou deux, puis tu sais, je veux dire, c'est du gros stock là, constamment.
Ouais, ça fait partie des licornes, ça, en fait.
Ah, c'est
ça fait partie des licornes. Ouais, il y en a tout le temps.
T'as toujours un wishlist là, oui. Inaccessible.
On s'était parlé de Anderson .Paak à l'époque,
ouais,
tu te souviens?
Exact.
Je pense que c'était l'une des. Ouais. Est-ce que non, c'était pas c'est la première fois qu'on se parlait?
Ouais, dans les premières, ouais, je pense que oui, ouais.
Tu m'as demandé, mais pourquoi, c'est quoi cette espèce de... Pourquoi Anderson .Paak, là?
Ouais, parce que je pouvais pas être là. Là, j'étais fâché, j'avais manqué ça.
C'était gratos dehors.
Ben oui,
c'était Anderson .Paak, ça scène des festivals, quand j'étais pas à Montréal. J'étais comme, what the fuck?
C'était extraordinaire, puis c'était vraiment dans un bon timing, en plus.
Pourquoi?
C'était vraiment là.
Ouais.
J'ai appris cette année, je vais être là.
Be there, c'est une bonne idée.
Ouais. Une petite dernière découverte, tiens, qu'on pourrait s'écouter en se quittant. Qu'est-ce qu'on devrait découvrir d'un peu funky, un peu chant gauche, mettons?
Un truc chant gauche, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. L'une des plus grosses bêtes de scène qu'on va avoir sur l'une des scènes du festival. Mais c'est peut-être pas celui-là qu'on va écouter, on va en écouter un autre.
Okay.
Mais celui dont je parle, c'est un français qui s'appelle Mézergue.
Ouais, ben j'ai
de la térémine.
Oui. Ben,
je connais le nom, mais...
Ben, moi, j'ai fouillé un peu parce que je me rappelle de ta présentation lors de la conférence de presse. Tu me disais que c'est une espèce de rockstar de la térémine. Je me suis dit, bon, je vais aller voir un peu sur YouTube. Puis effectivement, c'est particulier. Il y a un petit côté presque électro à ce qu'il fait.
Ah oui, mais c'est ça que j'avais dit. C'est qu'en fait, il fait un set électro avec térémine, puis pas mal clavier, right?
Ouais.
Et mais c'est assez incroyable, Mézergue. Donc lui a checké, il va jouer dehors aussi. Un artiste qui a fait partie de nos licornes un peu par rebond, non, parce qu'on l'a pas choisi par défaut. Bien sûr que non, parce qu'on aurait voulu l'inviter malgré tout. C'est un artiste qui a collaboré avec Lil Sims qui s'appelle Obang Jayar.
Ouais.
Ah oui.
Pour moi, la meilleure track de Lil Sim, c'est Point and Kill, puis c'est Obang Jayar qui, donc c'est pas sur le dernier, mais
non,
sur celui d'avant. Et donc, ben, on a essayé Lil Sim, ça a pas marché, c'est pas grave. Je pense qu'elle vient au MTV dans pas longtemps.
Elle vient cet automne.
On va aller la voir avec grand plaisir, mais on a réussi à avoir Obang Jayar qui va être avec nous. Ouais, artiste qu'on aime beaucoup.
Très bon choix, ça.
Parfait, on va se laisser là-dessus. Tiens, je vais essayer de nous trouver une petite pièce de Obang Jayar. Qu'est-ce qu'on pourrait s'écouter? Try, paru un an.
Ouais, vas-y donc.
Ouais, like Try. Merci
beaucoup. Merci beaucoup, Maureen.
Et on refait ça quand vous voulez, hein.
Yes.
Demain.
On va se revoir en tout cas au Franco et au Jazz.
Demain,
c'est
oui, on annonce la programmation extérieure des Franco.
Ça, c'est toujours le fun.
Ouais, je sais, tu m'en as souvent parlé de ça.
Pour moi, c'est comme le début de l'été.
Ouais, exact.
Pour moi, c'est vraiment comme la meilleure partie commence. Puis c'est là où on s'installe avec le plus beau de la vie montréalaise.
On a une très belle prog extérieure au Franco.
Très
belle prog. Il y a des le main enfin le pardon la grande scène, la belle est très jolie, elle est super super bien équilibrée, vous verrez. Je pense qu'on a vraiment des gros noms tous les soirs, plein de noms, vous diriez, les logiques vont être là cet été.
Mm-hmm. Ouais.
Et beaucoup de découvertes européennes avec des pierres de mer qui avaient déjà été annoncées. Ouais. Je le dis parce qu'il est déjà annoncé, parce qu'il joue avec Thierry Larose au Club Soda. Et beaucoup d'autres, du crow hip-hop français, yes. Découvertes avec des artistes vraiment costauds à découvrir. On s'en reparlera à un moment donné. Là.
Ouais.
Je lâche des noms.
Ça va être... Oh, ben vas-y, si tu veux. C'est juste que ça paraît la semaine prochaine. Hein.
Ça paraît la semaine prochaine, mais on commence à... On peut même chose, c'est Ben PLG a été annoncé en première partie de Lost. Je pense que si vous ne connaissez pas Ben PLG, c'est vraiment un des artistes hip-hop de la scène française à découvrir. Grosse proposition hip-hop.
Qui sera en extérieur gratuit aussi.
Il va jouer aussi en extérieur.
Okay. Ah, Lost, c'est une bonne prise aussi. Vraiment bon,
ouais.
Son album. C'est du gros.
J'ai commencé à écouter ça ce week-end, ouais, tout
ouais,
à fait.
C'est son meilleur album en carrière. Là. On est vraiment dans...
Si on connaît quelques-uns des artistes qui vont faire la grosse scène, on peut pas le dire évidemment, mais on aura une entrevue avec... Un des artistes.
Qui
paraîtra sous peu, le lendemain du lancement de la programmation.
Parfait.
Donc, on va voir ça.
Yes.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci. C'était un grand plaisir. C'était une
petite
chanson de Obon Gaillard.
Let's go.
Let's go.